Rebecca Devine, je suis directrice du Festival Horizon, festival sur les arts et cultures du Proche-Orient et de Méditerranée. On présente l'exposition « D'ici, je vois » en partenariat avec l'agence culturelle Dordogne-Périgord. Cette exposition entre dans un cadre assez spécifique qui est la saison Méditerranée 2026. Chaque année, le ministère des Affaires étrangères, via l'Institut français, organise une saison ou plusieurs saisons qui mettent qui célèbrent les liens entre la France et un pays du monde. Cette année, c'est une région, c'est la Méditerranée, et ce sont les liens entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et le Liban et la France qui sont célébrés à travers toute la France. Et c'est il y a un commissariat d'exposition qui est fait par Julie Kretschmar et ça a débuté en mai 2026, ça se terminera en octobre 2026. Il y a environ 200 événements dans toute la France et on est très fiers qu'il y ait cette exposition qui a été sélectionnée pour la Dordogne. Et la saison nous a identifiés comme un temps fort parce qu'on était notamment en ruralité. Alors cette exposition, l'idée est venue d'un article de presse rédigé par Benjamin Barthes, qui est rédacteur en chef adjoint du service international du Monde, qui travaille en tant que correspondant pour le Monde depuis plus de 15 ans et qui travaille sur cette région depuis plus de 20 ans. Il a écrit cet article en 2021, au moment où il quittait Beyrouth, qui était son dernier poste de correspondant, et il revenait à Paris. Cet article, ce n'est pas un article de presse classique, puisqu'on n'est pas en train de donner des informations ou de couvrir un événement. C'est selon ses termes, à lui, une déclaration d'amour à la région du Proche-Orient qu'il a couverte pendant tant d'années. Et cet article avait pour titre « L'éloge de la chaise en plastique blanc au Proche-Orient ». Et en fait, en partant de cet objet qu'est la chaise en plastique, ça nous permet de voir des points de vue, de voir cette société, ces sociétés du Proche-Orient et de Méditerranée différemment, loin des clichés qu'on peut avoir, que sont les guerres, l'islamisme, le terrorisme. Donc là, c'est un peu une plongée au cœur de ces villes, au cœur de ce qui lie les hommes et les femmes, les enfants de cette région qu'on a tendance à invisibiliser. L'exposition « D'ici, je vois » rassemble 13 artistes, des photographes, des plasticiens, un artiste qui travaille sur les nouvelles technologies. C'est un travail qui fait appel à des artistes qui viennent vraiment de la région. Donc de la région, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays. Liban, Palestine, Égypte, Syrie, Irak, principalement. Et c'est cet aspect régional dans le choix des artistes qui nous permet de traiter tous les différents aspects de cette chaise. Effectivement, tu parles de chaise vide. En fait, les chaises, elles ne sont jamais abandonnées. Elles ont toujours une fonction. Et ça, on va pouvoir le voir dans les différents chapitres de cette exposition, qui est à peu près construite autour de quatre chapitres. Donc le premier dans lequel on entre, c'est un chapitre sur la chaise en tant qu'objet du paysage urbain arabe. Donc on va la voir ici, en fait là on va voir vraiment cet horizon, la Méditerranée, puisque la Méditerranée c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qu'on voit, et on va voir juste en face d'elle, la chaise dans son environnement urbain. Et ça, c'est à Beyrouth, c'est le travail de Tania Traboulsi, qui en fait capture des instants, des lumières à Beyrouth, de la vie quotidienne, mais toujours avec beaucoup de poésie. Vous avez ensuite les photos de Sama Beydoun, qui est également une artiste libanaise, et qui documente des objets insignifiants, d'apparence insignifiante, et qui en fait des sujets des sujets artistiques. Et il se trouve qu'elle avait travaillé sur la chaise en plastique. Et cette chaise, en fait, on la retrouve dans le paysage urbain. Ici, par exemple, elle n'est pas vide, elle n'est pas abandonnée. En fait, elle a une fonction très particulière, c'est qu'elle garde une place de parking. Parce que l'urbanisme dans les villes arabes, c'est d'apparence très chaotique, mais en fait, c'est régi par des règles tacites, mais connues de tous, et avec un fonctionnement très différent. Mais il y a quand même des codes qui ne nous sont pas forcément accessibles quand on vient de l'extérieur, mais qui, pour les habitants de ces villes-là, est tout à fait naturel. Et la fonction de la chaise dans cet environnement est tout à fait connue, que ce soit à Beyrouth ou au Caire, on retrouve ces mêmes fonctions-là. Après, c'est vraiment la chaise, on va la retrouver, ça, on pourra le retrouver dans l'article de Benjamin Barthes, où en fait, cette chaise, elle a vraiment de multiples usages. Et par exemple, on va trouver des concierges, des immeubles. Donc c'est pour ça qu'on souvent on voit des chaises en plastique sur les trottoirs avec un homme, souvent un homme âgé, c'est le concierge. Et ce concierge, il peut aussi y avoir son pendant, comme l'appelle Benjamin Barthes, qui est celui qui va être dans les services de renseignement, parce que on est aussi dans des villes qui sont dans des pays avec des régimes autoritaires. Et en fait, la chaise, c'est aussi un moyen de contrôle social parce qu'on peut observer, enregistrer des allées, des venues, qui vient, pourquoi, pour rencontrer qui. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, malheureusement, dans le monde arabe, du fait de ces gouvernements autoritaires.
Est-ce que cette exposition nous permet de comprendre là ou les raisons pour lesquelles la chaise est incontournable aujourd'hui dans le bassin méditerranéen ?
On va explorer ça avec un chapitre qui est vraiment la chaise comme le cœur de la société. Parce qu'en fait, on se rend compte que cette chaise... elle est facilement déplaçable, c'est le monobloc, c'est léger, c'est pas cher, et on peut se rassembler très facilement. Et dans les sociétés arabes, se rassembler, partager un café, n'importe où, hein, sur le trottoir, sur la plage, constitue le cœur de cette hospitalité qui est une évidence pour tout le monde quand on met un pied sur cette rive de la Méditerranée. Donc cette chaise, elle a, sans qu'on puisse vraiment le prouver, hein, mais elle permet d'avoir des espaces de cohésion. Elle permet d'éviter les divisions, puisque c'est en parlant, en dialoguant, qu'on continue de faire société. Et ça, on va vraiment le voir avec deux séries de photos sur Gaza. Vous avez là une série de photos de Fatima Shbeir, qui est photojournaliste gazaoui, qui a quitté Gaza pendant le génocide et qui est aujourd'hui exilée aux Émirats Arabes Unis. Et là, vous voyez très bien, donc par exemple, cette photo-là, c'est on fête l'Aïd, c'est une célébration de l'Aïd, tout le monde est dehors, et il y a ces chaises partout. Cette photo-là, c'est des habitants qui regardent Coupe du monde de football, je ne sais plus quelle année. Et là, la troisième, ça, c'est vraiment une photo extrêmement classique. C'est-à-dire que les espaces, les logements sont souvent des logements insalubres, particulièrement à Gaza à cause des bombardements très, très réguliers depuis de nombreuses années, notamment 2014, 2021. Enfin voilà, il y a des successions de bombardements et de guerres à Gaza, ce qui fait que les logements sont... Personne n'a envie d'y rester, hein, puisque c'est en travaux, à moitié détruit ou trop petit, puisqu'il y a aussi une densité de population très forte. Et donc, il y a cette nécessité d'aller à l'extérieur et de mêler, en fait, l'espace privé, l'espace public. Donc on habite la rue, on habite les plages. Les plages sont extrêmement importantes, la mer est extrêmement importante. Et ces chaises sont l'outil nécessaire pour habiter. Et on a mis en miroir de ces espaces de vie, on a mis en miroir ce qu'il reste de Gaza aujourd'hui après l'anéantissement. Et donc là, ce sont des photos de Fatma Hassona. Fatma Hassona, qui était une photographe gazaoui qui a été assassinée par l'armée israélienne 2 jours après avoir appris que le film documentaire dans lequel elle était, qui était réalisé par Sepide Farsi, était sélectionné à Cannes. Donc on en a entendu parler de cette photographe parce que le film était sélectionné à Cannes et qu'elle avait été assassinée, qu'elle ne pouvait pas y être pour le présenter. Vous voyez que il y a une petite chaise là, toute cassée, et c'est ce qu'il reste. Et quand, en fait, dans les débris de la guerre, les habitants de Gaza cherchent des choses puisque tout leur foyer a été détruit, et ben on cherche des chaises. On cherche des chaises, et même si elles sont cassées, on les garde. Et là, vous avez le travail de Mustapha Morana, où vous voyez des chaises, qui est un artiste plasticien gazaoui qui a quitté Gaza, qui est aujourd'hui réfugié à Paris. Ces chaises, elles sont cassées, mais elles sont réparées parce que c'est un moyen de continuer à faire société. Parce que c'est ce que je vous expliquais, c'est dans la discussion, dans être ensemble, ça symbolise tout ça. Et ça évite les divisions. Donc voilà en quoi cette chaise est importante. L'autre chapitre, c'est la chaise en tant que témoin de l'histoire. Donc là, elle témoigne d'un génocide à Gaza. Là, elle témoigne du front de guerre, puisque la guerre est extrêmement... Il y a énormément de fronts de guerre au Moyen-Orient et depuis beaucoup trop d'années. Et on n'a pas voulu élucider le sujet, puisque c'est une réalité, mais on a voulu le montrer autrement. Donc ça, ce sont on est dans des villages à 10 km du front en Syrie après la chute de Bachar al-Assad. Et ce sont des soldats qui sont dans la vie de tous les jours. Donc il y en a qui jouent aux échecs, ils nettoient leurs armes, ils discutent. Et on voit encore ces chaises à cet endroit. Voilà pour essayer de vous répondre un petit peu sur pourquoi elle est si importante. Et on peut s'avancer pour justement, en parlant de rassemblement, il y a en fait, elle est extrêmement présente, la chaise, pour les mariages, les fêtes religieuses et les enterrements. Donc là, on a 2 photos de mariage de photographes gazaouis. Ce sont des mariages en Irak dans les années 90. Et on a voulu le mettre, pas tant pour leur qualité artistique, parce que ce ne sont pas des photos avec une qualité artistique particulière, mais pour ce qu'elles racontent de ces sociétés. C'est-à-dire que le mariage, c'est une grande fête, une grande célébration qui se situe dans l'espace public. Et c'est également le contrôle social, et on a voulu montrer cette photo qui est dingue avec Saddam Hussein, parce qu'en fait ce sont des mariages de masse en Irak où il y a 10-15 mariés qui se font marier en fait sous l'œil de Saddam Hussein. Donc là, c'est un portrait de Saddam Hussein qui regarde ça. En tout cas, ce sont des mariages qui sont célébrés en groupe. Et ça raconte quelque chose de cette ambivalence que peut être le mariage et les rassemblements. C'est-à-dire que dès qu'il y a rassemblement dans une société autoritaire, c'est potentiellement un danger, puisque le rassemblement peut être subversif. Voilà, il y a eu des révolutions en 2011, et ça, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'espace public penser dans l'urbanisme, parce qu'il y a une peur de la révolte, en fait.
Vous mettez le portrait d'un dictateur dans cette exposition, mais comment ces chaises en plastique qui peuvent représenter la société occidentale, donc la société du mal, du diable, est-elle perçue par ces gens-là qui gouvernent ?
Alors, je ne pense pas que les gouvernants arabes aient une idée de ce que peut être la chaise en plastique, puisque c'est une chaise, vraiment c'est la chaise du peuple, c'est la chaise pas chère. Vous voyez que pour le coup, sur le portrait de Saddam Hussein, il n'est pas sur une chaise en plastique, lui. Il est dans un fauteuil extrêmement... avec beaucoup de fioritures, donc c'est pas, je pense qu'il y a même un impensé complet de ce que peut être la chaise en plastique, puisque ça ne les, ils ne la voient pas. Le dernier chapitre qu'on voulait montrer, c'est notamment au travers de la série de Habib Saleh, qui est un photographe libanais, qui nous embarque dans l'intimité de sa famille, puisque les personnes que vous voyez là, ce sont son oncle, sa nièce, c'est les membres de sa famille. Et en fait, c'était en discutant avec beaucoup d'artistes, je me suis aperçue que la chaise devenait une personne, et c'est pour ça qu'on s'est dit que pour le dernier chapitre, c'était un membre de la famille. Parce que, par exemple, vous voyez que sur la photo avec la petite fille, la chaise, ça, cette chaise est là depuis 30 ans, c'est la chaise du chien. Personne ne doit, n'y touche, c'est la chaise du chien. Et en fait, ces chaises, on ne veut pas les retirer. Voilà, il y a un attachement. Pardon, il y a un attachement à ce meuble.
Est-ce que certaines photos ont été mises en scène ou alors prises sur le vif ?
Ce sont que des photos prises sur le vif, il n'y a aucune mise en scène dans ces photos. Et ce qui était assez fou pour faire le choix des photos, c'est qu'en fait, c'était difficile puisqu'on s'apercevait qu'il y avait des chaises partout. En fait, sur énormément de photos, il y a des chaises. Ça, c'est une série. En fait, moi, je connaissais cet artiste. J'aimais ce travail... intimiste et la manière dont il racontait ces espaces qui nous sont complètement inaccessibles et en fait je me suis aperçue qu'il y avait plein de chaises et je lui ai demandé une sélection de photos avec des chaises, mais c'est pas du tout autant par exemple Sama Beydoun, elle les cherche et puisque ça faisait partie de son travail de recherche, mais pour la plupart ce sont vraiment des hasards, mais c'est parce qu'elle est tellement partout que c'était possible de faire cette sélection. Alors, on ne termine pas tout à fait, parce qu'il y a un espace immersif qui a été produit par Ahmed Al-Shaer, qui est un artiste égyptien, qui nous embarque dans un espace, mais que là, vous ne verrez pas, puisqu'il n'est pas encore en route. Donc, il personnifie encore plus loin la chaise en plastique. Mais sur ces photos, c'est Samir Al-Doumi, qui est un photographe syrien, qui a pris ces photos après la chute de Bachar al-Assad. Et effectivement, c'est l'idée que tout est possible, sans qu'on sache si c'est... avec de l'espoir. Donc c'est pour ça qu'il y a cette lumière où on ne sait pas trop si c'est un coucher de soleil, un lever de soleil. Mais c'était ce besoin d'ouvrir les possibles. Ouais.
À chaque fois, les chaises sont faites pour être assises, c'est-à-dire qu'on est assis sur la chaise. Est-ce que c'est vraiment la seule utilité de ces utilisations, de ces chaises en plastique ? Ou, comme pour nos chaises à nous, on monte dessus des fois pour attraper un objet sur une étagère. Ou y a-t-il une autre utilité ? Ou alors c'est vraiment un objet sacré, finalement ? Parce que vous le disiez tout à l'heure, la niche pour le chien, en fait, c'est la chaise pour le chien. On n'y touche pas.
Ça, cette chaise pour le chien, c'est vraiment un attachement qui peut y avoir dans un environnement familier et dans l'espace qu'est le foyer. Donc c'est un espace très particulier. Dans la vie de tous les jours, on a pu voir les chaises de Sama Beydoun qui gardent une place de parking. Celle-ci, Personne ne s'assoit dessus. Elles ont cette, donc elles restent vides. Et c'est ainsi. Après, elles ont toutes sortes de fonctionnalités diverses et variées pour n'importe quel pour flâner, pour être à une terrasse de café, pour des choses extrêmement utilitaires. Ça reste une chaise.